qui est sûr, c'est que j'aurai toujours cette menace, en fait, qui est pas une menace mortelle, hein, c'est ça, c'est que j'en mets bien, c'est pas une maladie dont on meurt, mais c'est une maladie dont on souffre et qui nous change à jamais.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2026, pleine de santé. Peut-être avez-vous vécu pendant ces fêtes de légers maux de tête post-célébration arrosée. Ah, le mal de tête, on en parle souvent comme d'un désagrément un peu banal, une petite gêne passagère. Mais ça, c'est quand on n'a jamais vraiment vécu une migraine. Pesante, douloureuse, handicapante et invisible. Pourtant, elle peut suspendre le quotidien, le travail, les relations, parfois pendant des heures ou même des années. En Suisse, près d'une personne sur sept en souffre, et ce sont majoritairement des femmes. Marie est l'une d'entre elles, et la migraine a fait irruption dans sa vie, main dans la main, avec un heureux événement.
J'ai commencé à avoir des migraines quand je suis tombée enceinte de ma fille. J'en avais jamais eu avant, et pourtant je savais bien ce que c'était parce que ma mère en souffre depuis toujours, ma sœur aussi, mon frère aussi, donc les migraines dans la famille c'est quelque chose de connu, mais moi j'y avais toujours échappé. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai commencé à avoir des sensations un peu étranges au niveau du crâne. Je me sentais presque un peu paralysée d'un côté, un peu comme une forte tension qui part du haut du crâne jusqu'au cervical finalement. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Il y a même une fois où je suis allée aux urgences parce que je pensais que je faisais un AVC. Et puis aux urgences, ils m'ont contrôlée, ils m'ont dit non, tout va bien, on ne comprend pas trop ce que c'est, reposez-vous. C'est resté un peu comme ça tout le long de la grossesse, c'est-à-dire des sortes de sensations d'endormissement. Des tensions, mais pas de vraies douleurs. Et puis, une fois l'accouchement fait et ma petite fille avec moi, eh ben, j'ai commencé à ressentir ces douleurs, qui sont des douleurs de migraine, une douleur de migraine, je ne sais pas comment décrire ça, mais imaginez que vous avez un énorme clou dans la chaussure et puis que vous vivez avec ce clou, en fait. Donc, il y a ces pointes, alors là, vous ne la sentez pas dans le pied, mais dans le crâne. Tout le monde a des sensations différentes, mais dans mon cas, c'était plus localisé sur l'arrière de la tête. Donc, c'est comme si j'avais un fil très tendu, un fil électrique du côté gauche et où il y a une tension très forte et une douleur qui part de l'œil gauche, souvent c'était le côté gauche, jusqu'en bas des cervicales gauches. Ça peut aussi faire des douleurs jusqu'au bras. Et puis ça fait comme un marteau-piqueur en fait qui vous vrille le crâne. Et ça c'est arrivé donc quand, une fois que ma fille est née, j'ai commencé à avoir ces migraines, des épisodes extrêmement violent et qui durait en fait. Ça démarre et vous savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc c'était une triste découverte quoi.
La docteure Patricia Ivanovski, spécialiste en neurologie à la clinique Cécile à Lausanne.
Alors une migraine c'est une céphalée très forte. Donc c'est pas un mal de tête tout simple. C'est un petit peu plus compliqué. La plupart des gens qui ont des migraines, ils ont ces maux de tête pendant des heures et puis ils n'arrivent plus à faire rien du tout. Donc même faire le ménage, s'occuper des enfants, ça devient très compliqué. Se déplacer, faire une activité à l'extérieur et travailler la plupart du temps, c'est justement plus possible. Ça vient d'une part d'une adaptation des vaisseaux dans le cerveau, c'est-à-dire il y a une certaine dilatation des vaisseaux qui se fait. Et c'est pourquoi on développe ces maux de tête extrêmes. Après, il y a aussi d'autres formes, une certaine dépolarisation du cortex. Le cortex, c'est le manteau du cerveau. Donc, en fait, dans le cerveau, il y a une certaine électricité. Donc, en fait, toutes les informations sont données par une certaine électricité. Et dans les migraines, ce circuit est dérangé. Et du coup, ça génère des céphalées. Ce sont des maux de tête donc beaucoup plus forts qu'un maux de tête simple qui réagit à une antalgie comme d'afalgan et on n'en parle plus. Ça continue, c'est comme un marteau dans la tête souvent, hein, c'est très très fort. Et aussi la localisation est très différente d'un patient à l'autre. Parfois, c'est qu'une partie de la tête, soit la droite, soit la gauche, parfois les deux, ou c'est que devant au niveau du front, ou que derrière. Et en plus, on peut avoir d'autres symptômes avec. On peut souvent avoir des nausées, ça peut aller jusqu'au vomissement. Et on peut avoir une très grande sensibilité au bruit et à la lumière. Et c'est typiquement les situations où les patients souffrant des migraines qui doivent se coucher au noir et essayer de dormir.
Je pense que tout ça est lié à un changement hormonal et que c'est arrivé comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ma vie n'a plus jamais été la même. C'est-à-dire que je souffrais de migraines une à deux fois par semaine, des migraines vraiment très fortes, invalidantes, qui m'empêchaient parfois même de vivre normalement, en fait.
Il y a plus de femmes qui sont touchées que les hommes. Par contre, ça peut aussi toucher les hommes, donc il y a juste un pourcentage qui est un petit peu différent. Ça peut toucher tout le monde, donc il n'y a pas un profil type. Par contre, chez les femmes, assez souvent, le contexte hormonal peut jouer un rôle. Et ça, c'est assez connu parce qu'il y a aussi des patients ou patientes qui, à partir de la ménopause, souffrent moins de migraines. Donc là, on voit vraiment le lien avec les hormones. On ne peut jamais dire qu'une migraine est clairement liée aux hormones. Par contre, effectivement, le changement hormonal pendant la grossesse peut grandement influencer les migraines. Il y a aussi des patientes qui souffrent déjà des migraines et tout devient encore pire pendant la grossesse. Mais, bizarrement, il existe aussi le contraire. Des gens qui sont très migraineuses et pendant la grossesse, ils ont moins. Ils font une deuxième grossesse et c'est le contraire. Donc vous voyez déjà un petit peu, c'est très aléatoire et on ne peut jamais avoir la certitude.
Je pense que beaucoup de migraineux et migraineuses partagent ce constat, c'est qu'en fait au début on ne comprend pas ce que c'est et démarre un long processus d'errance médicale. Je savais que j'avais mal à la tête, mais de là à dire que c'était des migraines, donc je suis d'abord allée voir un généraliste qui m'a dit oui c'est certainement des migraines. Alors il a commencé par me donner des médicaments, mais ils ne faisaient pas vraiment effet, c'était des triptans mais qui n'étaient pas très adaptés. Puis là, j'avais une trentaine d'années, alors j'essaie de trouver moi ce qui déclenche ces migraines. Est-ce que j'en ai plus en buvant du vin blanc? Est-ce que c'est à la veille de mes règles? Est-ce que c'est quand je regarde la télé trop longtemps? Alors j'essaye un peu de trouver des solutions, des idées. On va sur Internet, enfin, c'est quand même un peu compliqué de savoir. Petit à petit, j'ai quand même compris que c'était probablement des migraines, mais il y avait toujours un peu l'espoir de trouver la solution. Par exemple, je suis allée voir un ophtalmo parce qu'on m'avait dit « Oui, mais peut-être que ce sont des migraines ophtalmiques, alors il faudrait peut-être aller mettre des lunettes. » Alors là, il y a l'ophtalmo qui dit « Oui, c'est possible que ce soit ça, on va essayer, on va tenter. » Et puis, il y a toujours l'espoir de se dire « Mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est autre chose et que je vais trouver la solution. » Je me rappelle aussi d'être allée voir des ostéopathes qui disent « Ah, mais c'est peut-être que vous avez un nerf coincé qui expliquerait que c'est un syndrome spécifique. » Donc, on fait des scanners, on fait des IRM... Et puis chaque spécialiste, entre guillemets, veut vous aider, veut vous sauver. Donc c'était un peu comme ça, des étapes. Il y a eu aussi l'acupuncture. Grand espoir de mon côté, parce que ma mère s'était fait beaucoup aider par l'acupuncture. Donc je me suis dit, mais moi, ça va marcher. Et puis j'y vais, pleine d'espoir. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Au contraire, ça m'a même empiré les douleurs. Donc c'était un échec de ce côté-là. Je ne dis pas que l'acupuncture est un échec à chaque fois. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais c'est ces tentatives successives de trouver des solutions qui échouent. Et tout ça, pour la santé mentale, ce n'est pas simple. Parce qu'en fait, les migraines, ce sont des maladies qui ne sont pas graves, mais très invalidantes. et puis qui sont invisibles. Donc c'est vrai que l'entourage peine parfois à comprendre qu'on a mal parce que ça se voit pas, et donc c'est un peu difficile pour le moral en fait.
Les symptômes ont un très grand impact sur la vie quotidienne, et c'est pourquoi chaque crise migraineuse est déjà une crise de trop. Et les gens qui souffrent quotidiennement, c'est les pires. Après, il y a des gens qui souffrent rarement, une fois par mois. Donc là, on arrive éventuellement avec des médicaments spéciaux de maîtriser cette crise, qu'elle soit le plus courte que possible. Si on n'a jamais eu une migraine, on ne sait pas la différence. Et puis souvent, c'est banalisé, les maux de tête. Tout le monde a déjà eu mal à la tête. Et si on demande à quelqu'un, « Ah, j'ai très mal à la tête, est-ce que ça peut être autre chose ?» Bah, les gens, la plupart des gens vont répondre « Non, j'ai aussi mal à la tête, c'est pas grave. » Effectivement, donc, il faut vraiment insister auprès de son médecin que c'est différent, c'est handicapant, de mettre le terme dessus, je suis incapable de faire quelque chose quand j'ai ce type de mal de tête. Et après, j'espère être rapidement vue par un neurologue. Les traitements de la migraine, c'est assez vaste. Ça dépend aussi de l'âge des patients. Il y a beaucoup de traitements qu'on peut seulement donner à partir de 16 ans ou 18 ans. Ça dépend aussi des comorbidités des patients. Donc s'il y a d'autres pathologies, il faut faire attention avec l'interaction des médicaments, etc. Et ça dépend de la sévérité de la migraine. Donc il y a une grande différence si on a des migraines tous les jours ou une fois tous les 3 mois. Donc tout ça, ça doit être déjà d'abord évalué, c'est-à-dire on demande souvent aux patients de tenir un calendrier de céphalées et de voir quels médicaments aident. Donc déjà dans la crise aiguë, on peut proposer des médicaments précis qui sont faits pour les migraines, ce sont les triptans, c'est une classe de médicaments qui existe depuis très longtemps. Puis par la suite, si la migraine est trop souvent, il faut envisager un traitement de fond, ça veut dire on prend un médicament tous les jours pour qu'il n'y ait pas autant de crises qui surviennent pendant le mois. Et là aussi, on peut d'abord essayer avec des produits naturels, donc il y a des compléments alimentaires qu'on peut essayer. Les plus utilisés, c'est soit le magnésium ou la vitamine B2 en préparation spéciale. Il y a aussi des méthodes de la médecine complémentaire qu'on peut utiliser, l'ostéopathie, si on a beaucoup de mal à la nuque, au niveau des épaules, et qui tire dans la tête, ou l'acupuncture. Donc l'acupuncture, c'est un très bon moyen dans la médecine de la douleur, et ça a tout à fait sa place dans la prise en charge des migraines. Tout ce qui est médecine complémentaire, c'est le corps qui décide s'il accepte cette méthode ou pas. Typiquement à l'acupuncture, c'est pas fait pour tout le monde. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Par contre, c'est plutôt rare qu'il y ait des symptômes qui s'aggravent.
C'est comme si on avait une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. On se dit, ben, alors aujourd'hui c'est lundi, je vais faire ma journée de travail, est-ce que ça va aller ? J'ai un dîner prévu jeudi soir, est-ce que je serai en état d'y aller ? Est-ce que le lendemain de ce dîner, je risque d'être au lit toute la journée à cause d'un verre de vin que j'aurais bu qui m'aura déclenché la migraine ? Après on lit quelque chose sur le chocolat, on se dit, mais tiens, si j'arrêtais le chocolat, peut-être que ça sera la solution. Puis en fait, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, donc c'est dur en fait, c'est dur.
La plupart des gens qui souffrent des migraines, ils ont ça à vie. Par contre, la fréquence des migraines change en fonction aussi de la vie, du stress de vie qu'on a, de la situation familiale, des autres maladies qui viennent, donc le parcours personnel de chacun. Typiquement, l'alcool, il y a le stress, le manque de sommeil, donc la qualité de sommeil est très importante chez les migraineux. Et d'ailleurs là, on vient directement quel impact ça a dans la vie de nouveau, parce qu'il y a des professions, il y a des décalages horaires au niveau professionnel, et ça c'est compliqué pour les migraineux. Après, il y a même des facteurs environnementaux qui peuvent jouer un rôle. Déjà le bruit aussi dans les villes. Et après, au niveau climatique, donc, il y a des gens qui sont très sensibles aux différents changements du temps et au vent. Donc typiquement, il y a une bise, il y a le feun. Ce sont des triggers pour les migraineux.
c'est comme si aujourd'hui les migraines, elles faisaient partie de moi. C'est-à-dire, bien sûr, la migraine, c'est une maladie donc qui ne se voit pas. Mais imaginez que j'ai... imaginez que je suis en chaise roulante, en fait. Si quelqu'un est en chaise roulante, il va pas pouvoir descendre des escaliers normalement. Sa vie sera modifiée à jamais. Dans mon cas, bien sûr, je compare pas ma douleur à ceux qui sont paraplégiques ou autres. Enfin, voilà, il n'y a pas de comparaison. Mais quand même, moi, j'ai pas de chaise roulante, mais j'ai potentiellement mal à la tête tout le temps et un mal de tête qui peut m'empêcher d'interagir avec les autres, de profiter de la vie, d'être au maximum de mes capacités de travail. Donc c'est vraiment pour moi un handicap, en fait, et ça m'a pris beaucoup de temps de l'admettre. Pendant longtemps, j'ai lutté contre ces migraines en me disant: j'ai mal à la tête, mais je vais quand même maintenir mon dîner de jeudi soir parce que je vais pas arrêter de vivre à cause de ça. Et puis j'ai multiplié les journées de travail, les soirées. Je voulais que ma vie reste exactement telle qu'elle était. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, justement, je ne pouvais pas vivre comme avant et que j'allais devoir prendre en compte cet élément qui était en permanence avec moi, qui était le risque d'avoir mal à la tête. Et ça, ce sera, je pense, jusqu'à ma mort comme ça, parce que la migraine, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Peut-être que dans quelques années, ça ira mieux. Peut-être que j'en aurai plus, parce que souvent avec la ménopause on en a davantage, donc je ne sais pas ce qui m'attend à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai toujours cette menace, en fait, qui est pas une menace mortelle, hein. C'est ça, c'est que j'en mets bien, c'est pas une maladie dont on meurt, mais c'est une maladie dont on souffre et qui nous change à jamais. Moi, j'ai l'impression que c'est difficile de dire qu'on a des migraines parce que ça ne se voit pas. On peut souffrir vraiment beaucoup, avoir vraiment l'impression de se faire perforer le crâne par cette souffrance, et pourtant on arrivera à travailler, on arrivera à parler. Donc c'est une souffrance très intérieure, et du coup les gens de l'entourage, les personnes à côté, ils ont de la peine à imaginer qu'on puisse souffrir autant alors qu'on a l'air tout à fait normal, finalement. Je pense qu'il y a un travail un peu d'information à faire auprès de tout le monde. Aussi, la migraine, c'est une maladie qui touche quand même en majorité les femmes et qui est souvent liée aux changements hormonaux, aux cycles. Donc forcément, comme beaucoup de maladies féminines, entre guillemets, ça a été pas mal invisibilisé, banalisé et souvent maltraité. Je suis allée voir une fois un neurologue qui m'avait été chaudement recommandé. C'était un docteur très peu sympathique, très peu empathique, qui m'a certifié que les migraines n'avaient rien à voir avec le contraceptif que j'avais à l'époque. Enfin, vraiment, une approche de la médecine très à l'ancienne, très patriarcale. Ça m'a vraiment déçue. Je pense qu'il faut que les soignants aussi... La population devrait s'informer davantage peut-être sur les migraines, mais aussi les soignants, parce qu'il y a encore beaucoup de soignants qui ignorent vraiment ce que c'est et qui ne savent pas comment le traiter. Moi, heureusement, maintenant, j'ai trouvé une solution.
Alors, quand on introduit un traitement de fond, donc là, il y a plusieurs médicaments à choix, on fait une observation, on suit le calendrier de céphalée et bien évidemment, on écoute les patients pour voir s'il y a une amélioration. Une amélioration peut se profiler de deux façons. D'une part, il peut avoir moins de jours de migraines par mois, mais il peut aussi avoir qu'il n'y a pas autant de diminution des jours, mais l'intensité des crises est beaucoup plus faible et du coup, on peut quand même continuer son activité. Et si après quelques semaines, au maximum 3 mois, on ne voit aucune différence, ça veut dire que ce traitement est inefficace et il faut essayer autre chose.
J'ai dû tester des milliers de trucs. J'ai testé notamment le céphalie. Le céphalie, c'est un petit appareil électronique que tu colles sur ton front et qui te fait des décharges électriques pour détendre ces gros nerfs qui sont responsables des migraines. Et le céphalie m'a beaucoup aidé pendant plusieurs années. En fait, je faisais tous les soirs, je le mettais sur mon front. Alors les enfants riaient beaucoup en me voyant. Ça faisait un peu Star Trek comme ça. Ça fait vraiment des décharges électriques assez fortes et ça me soulage encore pendant les migraines. Donc encore aujourd'hui, j'ai le céphalie qui n'est pas remboursé par les assurances et qui coûte à quelques 500 francs. Et ça, je l'ai trouvé, ce céphalie, parce que j'étais sur les forums de discussion Merci Internet, merci les réseaux sociaux. On en dit beaucoup de mal, mais franchement, moi, ça m'a aidée à me sentir moins seule. Et donc, depuis que j'ai ce céphalie, ça va mieux. J'ai été sauvée par ma médecin généraliste, qui n'est pas spécialisée dans les migraines, mais qui a une excellente écoute, empathie, et qui avait suivi un colloque sur les migraines et qui a eu l'idée de me proposer un traitement de fond, microdosé. Donc je prends des bêta-bloquants depuis bientôt 2 ans maintenant, tous les jours. Les bêta-bloquants, c'est des médicaments qui ralentissent un petit peu le rythme cardiaque. En théorie, ce sont des personnes qui ont des problèmes de cœur qui le prennent. Au quotidien, ça change pas du tout ma manière de vivre. J'ai presque pas d'effets secondaires. Je mets un peu plus de temps à me lancer quand je fais du sport, mais rien de très flagrant. Et puis, je ne suis pas une coureuse professionnelle non plus. Mais grâce à ces bêta-bloquants, j'ai presque diminué de plus de moitié la fréquence de mes migraines. Donc, il faut comprendre qu'avant, j'avais des migraines 1 à 2 fois par semaine. Donc, c'était quasiment quotidien, en fait, puisque les migraines duraient de 1 à 3 jours en fait. Et aujourd'hui, si je bois un verre de vin blanc, oui, j'aurai une migraine le lendemain. Si je bois du champagne aussi, et puis si je suis vraiment fatiguée, j'aurai une migraine, mais c'est des migraines beaucoup plus faibles. Et donc en fait, je considère quasiment que je n'ai presque plus de migraines grâce à ce traitement. Et vraiment, honnêtement, ma vie a changé depuis que je prends ce traitement. Je regrette de ne pas avoir commencé ça avant, parce que j'ai plus de 40 ans. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis migraineuse. Donc j'ai attendu trop longtemps avant de sauter le pas. Mais maintenant, je suis soulagée. Ça ne veut pas dire que ça sera pour toujours comme ça. Déjà, ça fait un petit peu moins effet qu'au début. Il m'arrive plus d'avoir des migraines à nouveau. Donc je continue avec les autres traitements que sont les triptans. Mais ça a quand même, ça m'a soulagée énormément depuis 2 ans maintenant.
Les bêta-bloquants, c'est les médicaments qu'on utilise beaucoup dans la médecine pour le cœur. Donc ce n'est pas un médicament développé pour les migraines. On utilise ces molécules pour le traitement de fond des migraines qui sont développées pour d'autres pathologies. Donc il y a les bêta-bloquants, il y a des antiépileptiques, des antidépresseurs. C'est des médicaments que dans les études pour leur pathologie développée, on a vu que les migraineux ont moins de migraines. Spécialement les bêta-bloquants, c'est un très bon médicament. On utilise des microdoses, donc il n'y a pas trop d'effets secondaires. Et ça peut résoudre le problème, oui.
Quand un traitement fonctionne, il ne fait pas disparaître la migraine, il permet surtout de vivre avec, à condition toutefois que le cadre de vie et de travail suive.
Je pense que la plupart des gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une migraine. Ils ne peuvent pas imaginer la douleur et la souffrance des personnes atteintes des migraines. Il faut veiller aussi sur l'activité professionnelle, donc parfois un aménagement du bureau, ça peut aider, peut-être la lumière, les lampes qui sont utilisées, les horaires, donc il faut, si c'est des migraines très sévères, il faut avoir un contact avec le supérieur de la personne pour voir est-ce qu'on peut changer quelque chose, arriver peut-être un petit peu plus tard, faire des pauses plus souvent. Et d'ailleurs, dans ce contexte, au niveau de la Société suisse de neurologie, il y a une campagne qui est en cours en Suisse. Ça s'appelle Migrant Workly Space. Donc, c'est-à-dire des firmes, des entreprises qui se donnent la peine d'aménager une petite pièce calme où on peut se reposer, sont labellisées avec cette formule. Ça évite que les personnes qui souffrent des migraines doivent chaque fois rentrer chez eux et interrompre le travail parce qu'un petit repos avec un médicament spécifique, ça peut être très bénéfique. Donc c'est très important de faire beaucoup plus de publicité de cette maladie qui a une plus grande compréhension de la population.
Je me souviens de ma maman qui a vraiment souffert tellement de migraines quand j'étais petite. Je la revois encore allongée dans la chambre, en train de gémir, les volets fermés. J'ai vraiment grandi avec une maman qui souffrait énormément, très régulièrement, et qui, à l'époque, quasiment rien n'existait pour soigner les migraines. À l'époque, elle était soignée avec un dafalgan, ça ne lui faisait rien. Donc, c'est vrai qu'en 20, 30 ans, la médecine a énormément progressé et Dieu merci, vraiment merci les triptans. Nous, les migraineux, on est dépendants des médicaments en fait. Sans les médicaments, je pense qu'on n'y arriverait pas. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui existent aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il faut chercher, il faut creuser. Tout ce que j'ai testé, je l'ai trouvé parce qu'on me l'a recommandé, parce que j'ai demandé, parce que j'ai cherché un rendez-vous avec un spécialiste. Enfin, c'est petit à petit. Et cette expérience-là, elle est précieuse. Et aussi, c'est pour ça que je pense que les migraineux ont tout intérêt à se former cette belle communauté sur Instagram. Moi, je suis énormément de personnes qui ont des migraines, des médecins aussi bien que des patients. Il y a aussi une association de migraineux en Suisse qui a un forum de discussion et qui peut fournir un soutien ponctuel aux personnes qui organisent aussi des conférences ou des groupes de parole. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à demander de l'aide parce qu'on se sent souvent seul en fait quand on est malade. Je pense que tout le monde, quelle que soit la maladie, le ressent. Et je pense qu'il faut essayer de s'entourer pour se sentir moins seul justement.
Aujourd'hui, avec l'arsenal thérapeutique qu'on a à disposition, la plupart des gens, on arrive au moins d'améliorer. Et il y a même un grand pourcentage des personnes qui peuvent vivre presque normalement, qui ont tellement rarement des crises migraineuses qu'ils se sentent comme guéris, malgré que la maladie est toujours là. Donc on a depuis 8 ans maintenant en Suisse des médicaments très modernes, qui sont aussi très répandus en Europe, qui sont fréquemment utilisés avec extrêmement peu d'effets secondaires et qui ont une très bonne efficacité.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des liens vers les ressources évoquées ici en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.